Et maintenant, c'est l'heure de votre feuilleton hebdomadaire. Jour à neige, jour à peine. Feuilleton radiophonique écrit par Jean-Michel Asse, interprété en alternance et selon humeur par Didier Rexach et Jean-Michel Asse. Diffusé tous les vendredis de l'été à 21h sur Radio Bartas. Avec les lutins de la forêt, on a pisté les malandrins qui nous ont attaqués pendant notre voyage vers la mer. On a fini par les rattraper, en tuer certains, laisser d'autres fuir et récupérer leur butin.
La lune était pleine et on voyait comme en plein jour. Je m'endors du sommeil du juste, un juste bourré ce qu'il faut. J'étais bien, je trouvais même qu'il faisait chaud pour la saison. Quelqu'un me tire par les pieds hors de la hutte. Ça brûle, ça brûle! Je retrouve mes esprits, autour de moi, c'est la cata. La hutte d'où on m'a sorti commence à brûler, ainsi que 4 ou 5 autres habitations. Ça court, ça crie, en gros, c'est la panique. 5-6 cavaliers traversent le hameau en moulinant de leurs haches. Heureusement, ils ne touchent personne. Comme je suis au sol, j'évite miraculeusement de me faire piétiner. Normalement, un cheval seul t'évitera si tu es à terre. Mais avec un gros con qui lui laboure les flancs, il te marche dessus sans état d'âme. Tout le village est réveillé, ça crie de partout, les femmes essayent d'éteindre les feux et certains hommes, sur ordre de Willibert, font front à une dizaine de piétons qui sortent du bois au nord. Un groupe d'hommes se positionne pour stopper une nouvelle charge de la cavalerie. Heureusement pour nous, 3 cavaliers lancés en avant, sortant d'on ne sait où, prennent les ennemis par le flanc. Ils font du dégât. 2 méchants tombent de cheval, un ne se relève pas, l'autre est pris en chasse par un groupe d'enfants qui le lapide et le laisse pour mort sur le terrain. Ce mauvais coup fait fuir les autres et voyant que les assaillants du bois prennent leurs jambes à leur cou, laissant 2 ou 3 camarades sur le carreau. A priori, l'escarmouche est terminée. Comme pour nous aider, le temps s'en mêle, il se met à pleuvoir. On finit d'éteindre l'incendie, on panse les blessés. On fait les comptes, 5 morts chez les méchants et seulement 2 chez nous. Cela aurait pu être pire, mais comme dit Warin, c'est encore 2 de trop. La patrouille qui a fait tourner l'issue du combat en notre faveur était sur les traces des assaillants depuis le matin. Un coup de pinard et elle se retourne au château pour faire son rapport. Certains de chez nous on crut voir le moine noir sur un cheval à l'orée de la forêt. Les feux sont circonscrits, on panse les blessés, le jour finit de se lever sur un village fumant et en grand désordre. Le moulin à grain a morflé, mais la meule n'est pas cassée, on pourra réparer. Willibert a pris un mauvais coup. Elle a un pic au bras. Comme elle dit, le rebouteux et les druidesses vont avoir du travail. Je cherche, je trouve celles qui m'ont sorti de la case en flammes, ces 2 gamines à taches de rousseur qui discutaient des choses de la vie, profitant de la pleine lune quand les flèches enflammées sont tombées sur le village. Pour les remercier, je leur donne un jaunet à chacune. Tout le village se met au travail pour réparer ce qui est réparable et faire le ménage. Avec Willibert, on prend congé. Elle monte mon cheval qui est sellé. Je suis sur une mule. On lui a bandé le bras contre le corps pour éviter qu'il bouge trop. Mais vu la tête qu'elle fait, ça a beau être une rude, elle en chie. On prend la direction du château en passant chez les druidesses. Je laisse Willibert au bon soin des druidesses. Elle rejoindra le château plus tard, avant de retourner chez elle. Bien entendu, je suis attendu. Les nouvelles vont vite et tout le monde veut savoir combien ils étaient. Il paraît qu'il y a eu beaucoup de morts, etc., etc. Un môme qui travaille aux écuries veut savoir pour ses parents. Je le rassure, ils n'ont rien. Ils demandent l'autorisation de partir chez lui pour aider. Sa seigneurie me fait mander. J'y vais de mon rapport. Elle est colère, car en plus de ces fâcheux événements, elle a reçu de mauvaises nouvelles de la cour du comte, notre suzerain. Il a été décidé, en haut lieu, que la gabalie se laissait un peu aller. Le comte trouve que l'on n'est pas assez chrétien et les histoires avec le moine fou le chagrinent. Ça fait désordre. La maison n'est pas bien tenue. Sur la voie romaine, la circulation des marchandises est entravée, ça manque de sécurité, et il pense que Frédérune et ses vassaux ne font pas ce qu'il faut. En conséquence, il nous envoie un sénéchal avec une troupe d'hommes d'armes. Le sénéchal aura tout loisir de réquisitionner des hommes en fonction des événements. En échange de cette aide, un tantinet forcé, soyons honnêtes, personne n'avait rien demandé. Il est sous-entendu que ça serait de bon goût qu'on fournisse foin et nourriture pour les hommes. Comme on n'a pas le choix, on va faire, on verra à l'usage. Frédérune explique, d'après ce qu'elle sait, que c'est le comte qui a mis sur le marché le moine fou pour déstabiliser la contrée. Mais maintenant que sa créature lui a échappé, il essaye de reprendre la situation en main. Cerise sur le gâteau, les moines doivent agrandir leur couvent et accueillir des bénédictins qui nous sont envoyés par l'archevêque du comté. C'est diffus. Mais on sent bien que le vent tourne, peut-être pas dans le bon sens. Les moines, eux, sont partagés. Certains trouvent que faire évoluer leur congrégation, ça a du bon. Ils vont prendre plus de poids dans le pays. D'autres pensent qu'à ce jour, c'est très bien comme ça. En plus, les bénédictins ont une réputation un peu sulfureuse. En gros, ils aiment bien gouverner. Sous des airs chafouins, ils font souvent chef. Néanmoins, les ordres écrits de l'évêque seront exécutés et Dieu fera comme de coutume, il reconnaîtra les siens. Ils s'attaquent donc à l'agrandissement de leur bâtiment. Je suis chargé par Rennes de faire la liaison entre le château et le chantier des moines. C'est comme cela que la ferme a été présentée. Mais dans la réalité, sur le terrain, j'aide ces pauvres moines en leur fournissant les matériaux pour leur construction. Deux, trois manants qui pensent gagner leur paradis les aident. Moi, ça m'occupe et je me sens utile. Surtout que Willibert est reparti chez elle avec un bras tordu. Ça lui donne un style pour se battre. C'est un peu gênant, mais rassurez-vous, au lit, on ne s'aperçoit de rien. Ça doit faire une bonne semaine que les moines agrandissent leur nid douillet, quand se pointent les bénédictins. Immédiatement, ils prennent les choses en main. Je ne les aime pas. Ils font trop propre sur eux. Mais je dois reconnaître qu'ils sont efficaces. Le chantier ne traîne pas. Ce dimanche, il y a messe, avec un évêque. Dans la cour du château et procession jusqu'au nouveau couvent, pour le bénir. La cour est noire de monde. J'ai rarement une foule pareille. Une partie des lutins de la forêt ont fait le déplacement, des paysans alentour sont venus voir, et tout le château est sur son 31. Bertrand le Pleutre et sa maisonnée, Gaston le Bègue et le chef du village des Marais sont des nôtres. Je ne suis pas dupe. Ce n'est pas la religion qui attire le peuple. Ça se saurait si toute la région était devenue croyante d'un seul coup. Non, le miracle, si miracle il y a, c'est le gueuleton. la baronne, pour montrer sa bonne volonté, offre un grand festin. Les cuisines ont réquisitionné une flopée de marmitons, rôtisseurs, poissonniers, gâteaux, etc. Pour vous dire, même Bertrand le pleutre est sur le cul. Il n'avait jamais vu autant de nourriture au même endroit. Sa femme et Fifi ont poussé le vice à demander confession au nouveau moine. Je ne les savais pas si croyantes. J'en discute avec frère Abélène, qui m'apprend qu'ayant souvent confessé ces dames, sans trahir le secret de la confession, ce qu'elles racontent n'est pas piqué des vers. Je vous passe le côté diplomatique de l'affaire. Ce qui doit être béni est béni, ce qui doit être chanté est chanté. Certains tombent à genoux au passage de l'évêque. Frédérune est belle comme un astre. Elle brille, elle rutile avec sa couronne de baronne sur la tête. D'aucuns, quand ils raconteront plus tard, diront qu'ils y étaient et que c'était grandiose, que l'évêque et la baronne semblaient flotter sur un nuage et ne touchaient plus le sol. Personnellement, n'ayant aucune affectation officielle pour ce grand cirque, je me suis éclipsé discrètement avec du vin, quelques mets, piqués aux cuisines et une mignonne de ma connaissance à qui j'ai expliqué les étoiles. Coup de bol, ce soir, c'est jour de fête chez la voûte céleste. En réalité, je n'y connais rien en étoiles, mais je raconte bien, entre autres. Il a bien fallu une semaine pour que le château reprenne un visage normal. Les invités sont repartis sur leurs terres, les paysans ont ramassé la nourriture qui restait, et hop, ils s'en retournent au cul des vaches pour le reste de l'année. Et les bénédictins, eux, ont commencé leur travail de sape. Ils ont décidé qu'à partir de dorénavant, c'est eux qui géreraient les bains publics et que, par là même, ils avaient un regard sur les dames qui y officiaient. En gros, ils demandent un pourcentage sur le peu que gagnent les filles qui s'occupent des clients. Je tiens à préciser que les bains et les services qu'offrent certaines jeunes filles sont gratuits. Tu donnes ou pas selon humeur. Moi, par exemple, il m'est arrivé de donner un petit quelque chose pour avoir un drap chaud au sortir de l'eau. Mais jamais, au grand jamais, je n'ai payé pour ce qui s'est passé avec madame dans le bain. D'ailleurs, je n'ai jamais demandé qu'une de ces demoiselles entre dans mon baquet. Mais j'ai rarement refusé qu'elle y vienne. Dans ma famille, on a du savoir-vivre, on n'est pas des bêtes non plus. Maintenant que vous connaissez Frédérune, vous pouvez comprendre que cette initiative, bien que religieuse, lui soit restée en travers de la gorge. Elle a convoqué les moines et leur a expliqué comment elle voyait la vie ces jours-ci. J'étais témoin de la scène. Je cite de mémoire. « Messieurs, je ne me mêle pas de la façon dont vous réglez les problèmes de la religion. Alors, je vous demande, même vous ordonne, de ne pas empiéter sur la vie sociale de mon domaine. Chez moi, la prostitution n'existe pas. Il est vrai qu'à certaines fêtes religieuses ou pas, les femmes, même mariées, ont autorisation de vendre leur charme. Le reste de l'année, si certains sont assez cons pour payer les services d'une dame, c'est leur problème. Mais en aucun cas, je répète bien, en aucun cas, l'argent qu'a gagné la fille avec ses fesses ne doit atterrir dans les poches d'un tiers. Mari, copain, frère ou protecteur, encore moins dans les poches des moines. Je sais qu'ailleurs, dans des grandes cités, des moines tiennent des bordels. Mais soyez certains que, moi vivante, vous ne toucherez pas un sou de mes sujets. Elles me doivent respect, et moi, je leur dois protection et aide le cas échéant.
Même si vous êtes sous ma protection tant que vous êtes sur mes terres, je n'hésiterai pas une seconde à vous virer à coups de pied dans le cul si vous outrepassez mes ordres. Évêque ou pas, il y a des limites à ne pas franchir. J'ai dit qu'il en soit fait ainsi.
Ces messieurs sont repartis la queue entre les jambes. L'histoire a vite fait le tour de la contrée et les religieux l'ont mise en sourdine un certain temps. Personne ne se faisait d'illusions. Ils se vengeraient. J'étais triste pour nos moines. On avait toujours eu des rapports normaux. Mais depuis que les bénédictins avaient pris le pouvoir, tout avait changé. Le frère, Abel Haine, s'est défroqué. Il ne veut plus faire moine. Les bénédictins le gonflent, comme il dit. Il faut prier plusieurs fois par jour, certains jours c'est silence, jusqu'à la nuit, et tu dois te confesser dès que tu pètes. Je rapporte ses dires. C'est un peu imagé, mais venant de sa part, ça ne m'étonne pas. Dans les faits, il a quitté le couvent et dort avec tout le monde dans les écuries. Il dit qu'un de ces jours, il construira une cabane à l'orée de la forêt et s'installera avec une gourgandine bien de sa personne. J'ai promis de l'aider à construire sa cabane. Faut dire qu'on passe beaucoup de temps à refaire le monde. On s'invite aux cuisines où son changement de statut social est très bien vu. Après le repas, on grimpe sur les remparts et on divague comme des mômes. Il explique bien et pose les bonnes questions. Avec lui, on se sent moins con. Il a voulu m'apprendre à lire et à écrire. J'ai essayé, mais ça ne le fait pas. Je ne comprends pas pourquoi on parle une langue et qu'on doive écrire avec une autre. Il n'a pas insisté. Souvent, il nous lit une histoire édifiante avec des dragons, des elfes et des lutins. On aime bien. Ce mercredi, alors que le soleil déclinait à l'horizon, la troupe envoyée par le comte se présente à la porte du château. Il y a du monde. Une douzaine de fiers cavaliers, quatre chariots tirés par des bœufs roux et des mules, et une dizaine de piétons. Le sénéchal est accompagné chez la baronne et nos hommes indiquent l'emplacement prévu pour le camp militaire. Ils donnent l'impression d'être bien organisés. En une heure, les tentes sont montées, la cuisine est installée et les feux allumés. Les bêtes sont décelées et après avoir bu à la mare, broutent à l'orée de la forêt. Tout ce que le château compte de curieux est sorti et fait connaissance avec les nouveaux arrivants. Il parle un patois qui ressemble au nôtre. En gros, on se comprend. Tout ce remue-ménage n'amuse pas Abel Haine, qui part vers le camp des lutins de la forêt. Il reviendra dans quelques jours. Il va profiter du voyage pour passer chez les druides, avec qui il a toujours eu de bons rapports. Dans les jours qui viennent, on s'habitue aux nouveaux arrivants. Seul incident notable, nos chiens ont violemment manifesté contre la violation de territoire par les clébards des hommes d'armes. Ça s'est chicané dur, mais les nôtres ont préservé l'enceinte du château. Nos bêtes chez nous, les leurs chez eux, et les cochons seront bien gardés. Depuis, le statu quo tient. La troupe a entamé une période de patrouille. Pour l'instant, ils font connaissance avec le territoire. Patrouille à pied alentour du château, patrouille à cheval plus loin. D'après ce que j'ai compris, ils font des cercles de plus en plus éloignés autour du château. Je ne suis pas certain que cette manœuvre impressionne quiconque. Tout le monde au château sait que les nouvelles vont très vite et qu'à 4 jours de cheval d'ici, tout ce que la région compte de marginaux est au courant des faits et gestes des gendarmes. Cette fine stratégie, au bout de 15 jours, a porté ses fruits. Une patrouille menée par le sénéchal en personne est tombée par le plus grand des hasards sur 2 voleurs de poules. Les pauvres bougres taillant la route sur la voie romaine faisaient griller un poulet qu'ils avaient chapardé chez un paysan. Ça n'a pas traîné, ils ont écopé de la sentence suprême. Pendez-en jusqu'à ce que mort s'en suive.
leurs cadavres se sont balancés au gré du vent le long de la voie romaine. Certains, au château, se sont étonnés de ce manque de charité chrétienne. Il leur a été répondu qu'on les laissait pendouiller pour l'exemple. Exemple ou pas, les moines, sur ordre de Frédérune, sont allés leur donner une sépulture chrétienne. Sinon, calme plat. Quand il fait soleil, il fait soleil, et quand il pleut, il pleut. Un dimanche, jour de messe, un chariot demande autorisation de camper près du château. Quelle n'est pas notre surprise de voir la Belette descendre du véhicule. On s'empresse auprès d'elle, on questionne, on prend des nouvelles, on demande où est Marguerite. Elle nous apprend qu'elle est morte. Elle est partie des poumons. Ça casse un peu l'ambiance. Elle raconte comment la mer c'est grand, comment les gens ailleurs vivent, en gros, comme chez nous. Ils ont les mêmes problèmes et d'autres que l'on n'a pas encore, parce que par chez eux, il passe plus de monde. Je la prends à part, elle m'explique pour Marguerite. Quand elle est partie, je m'étais fait une raison, mais de savoir que je ne la reverrai plus jamais, ça me gonfle. J'y vais de quelques larmes. Les camarades proposent de faire une bouffe en l'honneur de feu Marguerite. Ça ne la fera pas revenir, mais ça nous fera du bien. Tout le monde est d'accord. On invite les marchands avec qui voyageait la Belette et direction les cuisines. On était déjà bien entamés quand Frédérune s'est annoncée sans tambour ni trompette, mais avec un tonneleux de bière.
Permettez que je m'incruste. Marguerite était un peu comme une fille que je n'ai jamais eue.
Elle se fait une place entre le cuistot et un palefrenier et demande à boire. On la sert. Elle terminera la nuit avec nous. Avec le temps, les bénédictins se fondent dans notre monde. Et les militaires font ce qu'ils savent faire. Ils patrouillent. On peut discuter des résultats, mais il faut admettre que depuis qu'ils sont là, la région est plus calme. Comme on ne peut pas prouver que c'est grâce à eux, on fait comme si, et tout le monde est content. L'efficacité des bénédictins est plus voyante. Ils travaillent. Ils ont commencé à cartographier le territoire. En partant du château, ils dessinent les principales routes. Ils nous disent que ça va prendre du temps, mais qu'après, on en gagnera. C'est assez subtil, mais je ne vois pas pourquoi j'irai plus vite maintenant qu'il y a un parchemin avec le chemin que je dois faire. Avant, il me fallait 2 jours pour aller de là à là. Maintenant qu'il y a une carte, il me faut toujours 2 jours. Ils expliquent qu'une carte sert à ceux qui ne connaissent pas la région. Je réponds que tous les gens du pays connaissent la région, donc la carte ne leur sert à rien. En désespoir de cause, ils me traitent d'obscurantiste. Comme je ne connais pas ce mot, ça me fait ni chaud ni froid. Quand Abelaine revient, je lui demanderai, il doit savoir. De toute façon, on les laisse travailler sur leurs cartes, partant du principe que pendant qu'ils font ça, ils ne font pas de conneries ailleurs. Je ne peux pas les blairer. Mais je leur reconnais qu'ils ont des idées qu'on n'a pas eues, nous. Ça doit venir qu'ils ont dû voir autre chose, d'autres gens. Après quelques semaines de cartographie, ils demandent audience à la baronne. Celle-ci réunit un conseil restreint pour les entendre. Comme je faisais partie de ce conseil, je vous raconte. Avant, j'explique pourquoi je suis dans ce conseil. Tout à chacun peut faire partie de certains conseils par tirage au sort. La loi du château dit qu'en plus des nobles et habilités à faire partie de certains conseils, se rajoutent un ou plusieurs hommes du peuple ou femmes. Ce coup-ci, j'ai été tiré au sort, ainsi que la Belette. Reprenons le matin du jour du fameux conseil. Le soleil perce à travers les planches du mur et je me réveille un rayon dans l'œil. Hier, j'ai fait du bois avec 2-3 camarades et mon dos s'en souvient. Je suis bien, seul, sur ma couche, au chaud.
j'ai récupéré une vieille couverture en loup que la baronne m'a donnée quand elle a changé sa literie. Après mûre réflexion, il apparaît que j'aime bien me réveiller seul. Je sais, je donne l'impression de culbuter tout ce qui bouge. Eh bien, sachez que je suis plus souvent seul qu'accompagné. Donc je rêvasse, n'ayant aucune urgence ce jour. Je passe en revue les événements de l'année passée. Chapitre mort, nous avons les sus que le Seigneur a repris, plus certains qui sont morts de mort violente. Je ne vais pas les énumérer, mais j'ai une pensée pour Ancelin et Opportune, les jeunes mariés du village des Lutins, trucidés lors de l'attaque de leur campement. Ils étaient frais baptisés, et Dieu les a vite rappelés à lui. Comme quoi, on dit que Dieu reconnaîtra les siens. Eh bien là, j'espère qu'il ne s'est pas gouré. Marguerite nous a quittés loin de chez elle. Je pense que c'est pour me faire chier que Dieu l'a rappelé. Dans la catégorie « les couples se font et se défont », je ne vais pas entrer dans les détails, mais il est vrai que ça bouge. Par exemple, on peut sortir du lot Pedro, militaire en garnison au château, qui s'est accoquiné avec la veuve d'un laboureur. Il a déposé les armes et passe son temps accroché à son arrière. Le moinillon, en stage chez les moines, n'a pas résisté aux attraits d'une des filles de Germaine Lamuette. Il fréquente maintenant la haute. Comme on dit aux cuisines, si les petits cochons ne le mangent pas, il ira loin. Les druidesses ont accueilli un cheminot qui errait dans leur quartier. Il n'est pas tout jeune, mais manie la hache et n'est pas fainéant. Les méchantes langues disent qu'il n'y a pas que la hache qu'il manie bien. Enfin, c'est des on-dit. Les gens sont jaloux. Les troupes d'occupation, comme on les appelle, se délitent doucement. On va dire qu'elles n'ont pas résisté à la pression sociale. Il y a bien eu 5 désertions depuis 1 an. La maladie en a fauché 1 ou 2. La fière compagnie du comte est dans un triste état. Elle devait ramener la sécurité sur la baronnie. En réalité, les gens d'armes ont tourné en rond et les incidents ont continué. Pas plus, pas moins qu'avant leur arrivée. Au rayon des morts violentes, celle de Ramon, le palefrenier, qui a pris les 2 sabots d'un étalon dans le ventre. On a été obligé de tuer la bête. C'est cruel, mais ce cheval avait déjà fait des siennes. Il était dangereux. On a bouffé du cheval pendant 1 mois. Maintenant que j'ai fait le tour des événements de l'année, je prends un petit encas aux cuisines et rejoins le conseil. La séance a duré plusieurs heures. Plusieurs décisions ont été prises, pas très importantes, mais qui participent à la vie du château et de la contrée. Je vous en fais grâce. En finale, les bénédictins nous ont fait une communication sur un projet d'élevage de poissons. Je vous résume l'affaire, qui est plus compliquée qu'il n'y paraît. Ils proposent rien de moins que de créer un étang artificiel pour y élever des poissons, qui seront transformés pour en faire commerce et même les manger. Ou le contraire, les manger et vendre le surplus. Ils ont étudié la situation du lac et des marais qui l'entourent et pensent pouvoir transformer des terres humides en étangs qu'on remplira avec l'eau du lac et qu'on pourra vidanger pour faire une pêche complète. Si on les écoute, pour construire leur étang, en s'appuyant sur une rive, il suffira de 3 levées de terre pour former un rectangle. Profondeur envisagée, 1 toise. Surface, 10 par 5 toises. Pour commencer. Si ça marche, on pourra agrandir en fonction. À la question « d'où viennent les poissons qu'on mettra dedans ?», nos moines pensent s'approvisionner, pour le démarrage, dans une abbaye au nord de chez nous qui pratique l'aquaculture. Pour la vente, on séchera les poissons et certains seront gardés en glacière. Glacière qu'il faudra construire, mais qui sera facile à remplir avec la glace du lac et qui pourra servir à autre chose. J'ai résumé, mais vous avez les grandes lignes du projet. On ne dit pas oui immédiatement, et en demande une réflexion plus poussée. En gros, on va mettre sur pied une commission qui va étudier la proposition sous tous ses angles. Comment on fait? Avec qui? Qui finance? Qui fera tourner la boutique? Etc. etc. Les moines quittent la salle. Frédérune prend la parole. Elle pense que bien menée, cette affaire de poisson peut être une avancée pour la contrée. Et elle attend les conclusions de la commission avant les fêtes de Pâques.
Vous venez d'écouter « Jour à neige, jour à peine » sur Radio Bartas.